Disais donc bonjour à tous. Je regardais l'heure parce que Alors, je vais essayer de ne pas trop déborder, mais ça va être quand même un message assez dense. Et je me suis demandé, mais comment parler de la mort et de la résurrection de Jésus, sinon en parlant de la mort de Jésus en nous et de la résurrection de Jésus en nous, autrement dit la nouvelle naissance. Puisque la nouvelle naissance, c'est la concrétisation dans nos vies de ce que Jésus a accompli dans sa mort et sa résurrection. Et comme Abdel l'a déjà rappelé plusieurs fois, et ne nous y trompons pas, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Et nous sommes très prompts à célébrer la vie, mais très prompts également à reculer devant la mort. Donc c'est ce dont je vais parler ce matin. À partir du texte, je pense, qui parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire évidemment Jean 3 et le dialogue entre Jésus et Nicodème. Et bien évidemment, on ne va pas regarder tout en détail, mais après la lecture, je vais d'emblée vous attirer votre attention sur la manière même dont le texte est construit et qui est en fait très parlant. Donc, je vais vous lire Jean 3, des versets 1 à 21, c'est un petit peu long, mais ça servira de base. Et à nouveau, je ne vais pas tout commenter, mais souligner quelques points. Enfin, je vous le rappelle, je le lis à partir d'une traduction faite à partir de l'araméen. Donc ça va sonner un petit peu différemment de ce dont vous avez l'habitude dans vos Bibles, mais c'est bien d'entendre la parole de Dieu dans différentes versions. Or, il y eut là un certain homme d'entre les pharisiens, c'est-à-dire les séparés. Son nom était Nicodémos. Il était archonte, un des chefs des Judéens. Celui-ci vint auprès de Yeshua pendant la nuit, Jésus, hein, Yeshua, et il lui dit, Rabbi, nous reconnaissons que tu es envoyé de Dieu, un enseignant. Car nul être humain ne peut mettre en œuvre les signes que toi tu mets en œuvre, sauf celui avec qui Dieu se tient. Yeshua répondit, et il lui dit, Amin, Amin, je te le dis, ce qui suit durera et ne cessera d'être. Si un être humain n'est pas réenfanté de la tête aux pieds, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodémos lui dit, comment un homme âgé peut-il être réenfanté? À moins d'être rendu capable d'entrer à nouveau dans le ventre de sa mère une deuxième fois, et ainsi d'être réenfanté. Yeshua répondit et il lui dit, Amin, Amin, je te le dis, ce qui suit durera et ne cessera d'être. Si un être humain n'est pas réenfanté d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le règne de Dieu. Une chose enfantée de la chair est chair, et une chose enfantée de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné que je te dise, il vous est nécessaire d'être réenfanté de la tête aux pieds. La brise souffle là où elle veut, et tu entends sa voix, mais tu ne connais pas d'où elle vient, ni où elle va. Ainsi, et tout être humain enfanté de l'esprit. Nicodémos répondit et lui dit, mais comment ces choses peuvent-elles être? Yeshua répondit et lui dit, toi, tu es enseignant en Israël et tu ne connais pas ces choses? C'est la première partie du texte où il est question vraiment de la nouvelle naissance, en araméen, naître de la tête, que je complète de la tête aux pieds pour dire un réenfantement complet. Deuxième partie, à partir du verset 11. Amin, Amin, je te le dis, ce qui suit durera et ne cessera d'être. Les choses que nous connaissons, nous vous les adressons, et les choses que nous avons vues, nous les attestons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai dit ce qui est de la terre, et vous ne vous y fiez déjà pas, comment vous fierez-vous donc à moi si je vous dis ce qui est des cieux? et nul être humain n'est monté vers les cieux, sinon celui qui est descendu des cieux, le Fils de l'homme, celui qui est dans les cieux. Et comme Moshe, c'est-à-dire Moïse, hissa le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme va être hissé, afin que tout être humain qui se confie en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle qui dure d'âge en âge. Car c'est ainsi que Dieu a aimé ardemment l'âge présent, le monde présent, de telle manière qu'il donnera son Fils unique, afin que quiconque se confie en lui, le Fils, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle qui dure d'âge en âge. Et donc, après avoir parlé de la nouvelle naissance, voilà qu'il nous parle de la croix. Troisième partie, versets 17 à 21. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde présent pour qu'il juge ce monde, mais plutôt pour qu'il vivifie ce monde par sa main. Celui qui se confie en lui, le Fils, n'est pas jugé. Et celui qui ne se confie pas en lui est déjà jugé, du fait qu'il ne s'est pas confié dans le nom de l'unique, le Fils de Dieu. Or voici le jugement. La lumière est venue vers l'âge présent, le monde présent, et les fils d'homme, les fils d'Adam, ont ardemment aimé les ténèbres plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises et méchantes. Car quiconque met en œuvre des choses haïssables hait la lumière, et il ne vient pas vers la lumière afin que ses œuvres ne soient pas réprouvées. Or celui qui met fermement en œuvre la vérité vient auprès de la lumière, afin que soient connues ses œuvres qui sont faites en Dieu. Et la troisième partie, donc, concerne la lumière versus les ténèbres. Et donc, d'emblée, c'est assez frappant. Jésus enchaîne un discours qui commence avec la nouvelle naissance, qui continue par la croix, et qui termine par la lumière versus les ténèbres. C'est comme s'il parlait de la conséquence, la nouvelle naissance, et il en remonte la chaîne de causalité. La nouvelle naissance est la conséquence de la croix. C'est le passage qu'Abdel a lu tout à l'heure sur Romains 6. Si nous devenons une même plante avec lui en sa mort, nous le deviendrons également dans sa vie. Donc la deuxième, c'est la croix. La croix a pour conséquence la nouvelle naissance. Et avant même la croix et l'union à Jésus en sa mort et en sa vie, Jésus remonte encore un cran plus loin en parlant de l'œuvre de la lumière. Et l'œuvre de la lumière, ou le rejet de la lumière, c'est notre positionnement par rapport à la repentance. Puisque l'œuvre de repentance, c'est l'œuvre de la lumière qui va nous montrer qui nous sommes et qui il est. Donc, c'est intéressant que dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus remonte la chaîne des causalités et nous amène à la source, la première œuvre de Dieu, qui est une œuvre de lumière, qui se traduit par notre union avec Jésus en sa mort, en sa vie, et qui va se traduire par la nouvelle naissance, qui est le passage de la vie de la chair à la vie de l'esprit. Donc vous voyez, il y a une logique dans la manière dont ces trois idées maîtresses sont enchaînées. Donc à partir de là, je vais prendre juste certains versets et les développer un peu dans le même ordre que Jésus dans ce chapitre 3, en tout cas tel que nous le rapporte Jean. Si un être humain n'est pas réenfanté de la tête aux pieds, qu'on appelle dans le jargon évangélique être né de nouveau, renaître, donc en araméen c'est vraiment naître de la tête, c'est une image très concrète. En général, lorsque la femme enfante, c'est la tête qui sort en premier. On est de la tête. Si un être humain n'est pas réenfanté de la tête aux pieds, il ne peut voir le règne de Dieu. Et donc ça, c'est la première chose liée à la nouvelle naissance, c'est le fait de voir le royaume de Dieu. Si on ne voit pas le règne de Dieu, et je vais préciser ce que ça veut dire ensuite, alors on attend des choses visibles. C'est typiquement le cas quand on n'anticipe l'avènement d'un royaume terrestre sur terre, ou, comme je l'ai encore entendu récemment de la part de certains, en œuvre pour transformer la terre en une théocratie mondiale où les valeurs de la chrétienté s'imposeront au monde. On veut voir. On est dans la vue, et tant que je ne vois pas, il y a un problème. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus ici pourtant. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas réenfanté, ne peut pas voir le règne de Dieu ici et maintenant. Pas dans un futur hypothétique, ici et maintenant. Dans Luc 17, verset 20, il disait « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Et pourtant, combien nous aimerions que la venue du royaume de Dieu frappe notre regard et s'impose au monde. Mais ce n'est pas comme ça que le royaume vient. Et c'est ce que Jésus également a confessé devant Pilate, Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. On peut s'engager dans des fausses guerres, dans des faux combats, en tant que chrétien, à lutter contre le monde pour les christianiser de force, si je puis dire. L'Église catholique a fait ça dans son temps. Mais nous, en tant que protestants, nous pouvons aussi partir dans ce genre de combat des valeurs, combat pour investir l'arène politique et faire tout un tas de choses, en oubliant que si nous ne faisons pas la démonstration du royaume de Dieu dans nos vies et dans l'Église, qu'avons-nous à dire au monde? Donc le règne de Dieu s'exerce ici et maintenant, et il est rendu visible. Mais comment? Par les fruits de l'Esprit, par l'amour les uns avec les autres. C'est cela qui convainc le monde que le Seigneur est bien avec nous. Donc, il y a une forme de visible, mais c'est les fruits de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Ça m'avait fait penser à ce passage dans Hébreux 2, versets 8 et 9. En lui soumettant, donc au Fils, toutes choses, le Père n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Regardons le monde, des bruits de guerre, des crise économique, il y a tout un tas de problèmes dans le monde. On ne voit pas encore que tout lui est déjà soumis par l'œuvre de la croix. Mais l'auteur continue, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Et ça nous pose d'emblée une première question. Est-ce que nous le voyons couronné de gloire? Dans notre prière, dans notre méditation, dans notre lecture de la parole, est-ce que c'est bien Jésus couronné de gloire que nous voyons, qui crée en nous ce désir de le voir bientôt, d'entrer de plein pied dans le royaume qui vient? Si nous ne voyons pas Jésus dans sa gloire, alors nous rabaisserons les choses à vouloir voir dans ce monde-ci. Comme je l'ai dit, certains veulent imposer le royaume de Dieu sur la terre. Et là, je leur demande, c'est quoi la différence avec les Iraniens, avec le nouvel ordre mondial, avec le communisme? Tout ça se bat sur des plans terrestres. On veut un royaume visible. Mais on peut également courir après les signes, les prodiges et les miracles pour montrer et démontrer que Dieu est parmi nous. Je ne suis pas du tout contre les signes, prodiges et miracles. Mais sinon, ils sont à l'initiative de Dieu, pas à notre initiative. S'il a envie de faire un miracle ici, il peut le faire. C'est sa souveraineté. Donc je ne parle pas du tout contre les signes, prodiges et miracles. Je dis simplement qu'on ne peut pas tordre le bras de Dieu pour les imposer en disant « Ce soir, dans notre réunion, il y aura des signes, des prodiges et des miracles. » Waouh! Mais ça, derrière ça, se cache le fait qu'on ne voit pas Jésus dans sa gloire. Et comme on ne la voit pas, cette gloire de Jésus, on cherche à se convaincre en regardant et en cherchant les choses visibles. Donc faisons attention à ça. Où est notre regard? Constamment, la parole nous appelle à regarder à Jésus, celui qui suscite la foi et la mène à la perfection, à la maturité. C'est à lui que nous regardons et on le laisse faire ensuite par son esprit dans ce qu'il veut faire au travers de nous et en nous. Donc ne prenons garde que le fait de repousser le règne de Dieu à plus tard ne soit qu'un prétexte pour qu'il ne règne pas sur nous ici et maintenant. Je vous rappelle dans Luc 19, verset 14, cette parole terrible dans la parabole des vignerons, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et il y a des manières très subtiles et religieuses de dire que nous ne voulons pas que Jésus règne sur nous ici et maintenant. Ah oui, plus tard, mais pas ici et maintenant. Parce que si Jésus règne sur nous ici et maintenant, c'est un véritable engagement de notre part à lui être fidèle, c'est-à-dire à apprendre l'obéissance. Deuxième point. S'il y a quoi que ce soit que je dise qui n'est pas clair, interrompez-moi. N'hésitez pas. Vraiment, voilà, vous me faites signe. Deuxième point. Si un être humain n'est pas réenfanté d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, Jésus disait, il ne peut pas le voir. Et là, il dit, il ne peut pas entrer. Donc là, on va entrer dans des choses un petit peu plus délicates. Entrer dans le règne de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Et immédiatement, quand je lis ça, je pense à cette parole terrible que Jésus a adressée aux religieux dans Matthieu 23, au verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. On comprend du tout, du coup, que Jésus dise également dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, il faut bien comprendre cette parole qui suscite souvent des questions. Ah, attends, il faut être violent pour entrer dans le royaume de Dieu ? Non, il faut surtout faire son chemin au travers des religieux. Ça veut dire qu'il y a vraiment un obstacle qui se tient à l'entrée même du royaume de Dieu, et c'est les religieux, des faux enseignements. Donc la violence dont on parle, c'est d'abord une violence contre soi, c'est la violence de la croix qui fait mal à notre chair, c'est cette violence-là qui va nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il y a des religieux qui se tiennent là et qui empêchent, qui essaient de nous empêcher d'y entrer. Et comment ils le font ? Par des enseignements. Alors c'est là que ça va devenir plus délicat. Donc je vous préviens d'avance. On dit communément, mais voilà, parce que j'ai cru, je suis né de nouveau. Alors la première question que je pose, c'est que veut dire croire dans la parole ? Est-ce que croire, c'est adhérer intellectuellement à un credo, à des doctrines, au fait que Jésus est le Fils de Dieu ? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Savez-vous que les démons le croient également ? Donc vous voyez que ça, forcément ça va au-delà de ça. Ce n'est pas simplement des affirmations dogmatiques, parce que tout ce qu'on pourrait dire d'un point de vue dogmatique, le diable peut le répéter. Mais bien sûr qu'il le croit aussi. Et donc je prends le terme croire, non pas selon l'arbre de la connaissance, un credo intellectuel, mais selon l'arbre de la vie, c'est-à-dire du relationnel. Croire veut dire se confier en Jésus et lui être fidèle. Ça fait appel à la relation. C'est les deux sens du mot fides en latin qui a donné la confiance et la fidélité. C'est ça que ça veut dire croire. On est dans le relationnel. Or, on ne se confie pas en quelqu'un comme ça. Il y a un travail dans la relation. On apprend à se connaître. Donc, croire en Jésus, c'est se confier en lui et lui être fidèle. Ce n'est pas parce que j'ai levé la main à une réunion en disant « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu » que ça y est, tout est fait. Non. Donc, naître de nouveau, on dit « Ah, je suis né de nouveau ». Mais ça veut dire quoi être né de nouveau ? Nous naissons à la vie de l'esprit. C'est-à-dire que nous passons de la chair à l'esprit. Et donc, dans ce cadre-là, on a vraiment tendance, et je pense pour ma part que c'est une erreur fondamentale, qui fait que bien des chrétiens n'arrivent pas à avancer dans leur vie chrétienne, on confond l'appel et la nouvelle naissance. Parce que j'ai été appelé, je suis né de nouveau. Et après, on constate que notre vie ne change pas, ou si peu, et on commence à compenser le manque d'expérience de la vie de l'esprit par des affirmations doctrinales. Nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes ceci, nous sommes cela, mais nous n'en avons pas l'expérience. Donc ce positionnel-là devient en fait une espèce de vie virtuelle où on se met à confesser des choses, au fond, on sait très bien qu'on ne les vit pas. Alors, pourquoi il y a un tel décalage entre ce que l'on proclame et ce que l'on ne vit pas? Il y a un décalage. Comme je l'ai dit, on confond l'appel et la nouvelle naissance. Et je vais vous illustrer ça pour rendre les choses plus concrètes. Je vous rappelle que dans la parole, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Dans Matthieu 22, verset 14. Et ça, c'est un verset terrible. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de la prière. C'est la fin qui démontre notre vie chrétienne, c'est pas le début. On peut avoir des débuts tonitruants, mais on ne persévère pas. Et ça, c'est exactement ce que nous montre la parole. Oh, combien de fois! Je prends un exemple. La fameuse parabole des semences et du semeur. Vous savez, quand il sème la semence sur le terrain, le chemin, et les oiseaux enlèvent la graine. Là, on est, voilà, il n'y a rien, le cœur est dur, rien à faire. Et le quatrième exemple, au contraire, dans le bon terrain, la semence, elle grandit, elle porte des fruits. Vous voyez ? Mais on oublie qu'entre les deux, il y a la semence qui tombe soit parmi les épines, soit parmi les cailloux. Ça commence bien, ça lève, mais ça ne porte pas de fruits. Ça commence bien, ça termine mal. Pour faire comprendre ça, pensons, puisque Jésus fait énormément appel à des images de la nature, pensons à une naissance. On se réjouit quand une femme, une mère, enfante un fils ou une fille. Mais on oublie que l'histoire, elle a commencé 9 mois avant. Il n'y a pas de naissance s'il n'y a pas eu ensemencement. Et c'est le processus qui mène de l'ensemencement à la naissance qui fait passer de la mort, c'est-à-dire du néant, avant la fécondation, il n'y avait rien, et 9 mois après, il y a un enfant qui entre dans la lumière. Mais c'est un processus entre les deux. C'est intéressant que la parole est appelée la semence de Dieu. Vous le saviez ça? La parole est appelée la semence de Dieu. C'est-à-dire que c'est par la parole en nous qu'il nous féconde, qu'il met sa semence. Mais ça, c'est juste le début. La naissance, elle vient 9 mois après, dans l'image de la naissance naturelle. Elle vient 9 mois après. Donc, ce n'est pas au moment de l'appel, quand on reçoit la parole, que tout est fait. Il y a un processus qui nous amène des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la chair à l'esprit. Et ce processus-là, j'allais dire cette œuvre de gestation, c'est ce qui s'appelle la repentance. Elle est là, la repentance. Je prends un autre exemple. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14, Paul reprend l'histoire de l'Exode. Et ils disent, mais ils ont tous été baptisés en Moïse, ils ont tous bu de l'eau du rocher, ils ont tous mangé le pain du ciel, la manne. Et pourtant, la majorité est morte dans le désert. Ils sont bien sortis d'Égypte, ils ont bien été appelés hors d'Égypte, mais très peu sont entrés en Canaan. Et entre les deux, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parmi les élus, il y avait Josué, il y avait Caleb, il y avait tous ceux qui étaient en 20 ans et en dessous, et dans la génération des aînés, très très peu. Comme je l'ai dit, Josué, Caleb, même Moïse n'a pas pu y entrer. Mais pour une autre raison. Parce qu'il avait frappé le rocher là où il aurait dû lui parler. Et donc, vous voyez que entre l'Égypte et Canaan, il y avait le désert. Et quand on lit le livre du Deutéronome, on voit que le désert, je t'ai fait éprouver la faim, je t'ai fait éprouver la soif, afin que tu connaisses qui tu es, et que tu reconnaisses que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8. Donc le désert, il est là pour nous mettre à nu, pour nous faire éprouver la faim, pour nous faire éprouver la soif, pour nous confronter à nous-mêmes et qu'on découvre qu'il est le pain de vie descendu du ciel. Une autre manière de parler de la repentance. Donc, vous voyez, ce qui se passe dans le secret du ventre de la mer est comparable à ce qui s'est passé dans le désert entre l'Égypte et Canaan. C'est ce passage qui fait passer de la mort de l'ancienne génération à la vie de la nouvelle génération. Image que Paul reprend quand il va parler de la mort du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau qui est Jésus lui-même. Et c'est pas pour rien, évidemment, que le peuple sera conduit ensuite dans Canaan par Josué, qui est Jésus. C'est le même mot, c'est le même nom. Yehoshua. Mais ça donne également, quand on voit les choses comme ça, ça donne également un éclairage sur certains passages avec lesquels on a beaucoup de mal quand on essaye d'aborder la vie de l'esprit par la raison seule. Je prends un exemple. Dans Hébreux 6, est-ce que quelqu'un veut bien lire pour l'assemblée avec une voix claire pour l'enregistrement? Hébreux 6, versets 1 à 5. Que les 5 premiers versets, d'abord. Hébreux 6, 1 à 5.
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés...
Non, alors juste au verset 5.
Pardon.
Voilà, on va reprendre. Quand j'écoute ça, éclairé, est-ce que tu peux refaire la liste? Ceux qui ont été éclairés...
Oui, c'est car il est impossible
voilà.
Que ceux qui ont été une fois
éclairés,
qui ont goûté le don céleste,
et
ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir.
Quand j'entends ça, je dis, mais il a été appelé, il n'y a pas de problème. C'est un chrétien, il est né de nouveau. Il a goûté, Vous voyez quand on entend ça? Je vous ai dit, ce n'est pas au départ de la vie chrétienne qu'on peut discerner. C'est à la fin. Mais quand je vois ça, je dis, mais... Quelqu'un qui rendrait témoignage de ça, en disant, j'ai goûté à la bonne parole de Dieu, j'ai été éclairé par la parole, on dirait, mais il n'y a pas de problème, c'est un chrétien. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'il est pourtant dit au verset 6 et 7? 6 à 9.
Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu.
Mais... Je te fais travailler, excuse-moi.
Non, mais c'est la, c'est l'outil qui n'est pas bon.
Donc, jusqu'au verset 9.
Oui, je vais. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi...
Voilà, juste là. Merci. Là, il y a, je pense, pour ma part, un point fondamental. Et c'est en ce sens que des enseignements peuvent se tenir à la porte du royaume de Dieu pour essayer de nous empêcher d'y entrer. Je ne dis évidemment pas que c'est conscient de la part de ceux qui les rapportent. Mais...
Si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée, elle est réprouvée, et près d'être maudite.
Voilà. Donc là, on a une même image que pour la parabole des semeurs. C'est cette terre qui produit des chardons et des épines. Hein. C'est un des quatre terrains. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la pierre d'achoppement de la théologie, donc là, je vais faire 30 secondes de théologie, mais c'est important. La pierre d'achoppement des systèmes théologiques, c'est la tentative de rationaliser ce qui se passe entre l'Égypte et Canaan. Dans ce lieu secret, comparable au ventre de la mer, où l'esprit est en train de faire une œuvre. La pierre d'achoppement, c'est qu'on essaye de rationaliser l'œuvre de l'esprit, qui est une œuvre mystérieuse. Parce que c'est difficile à comprendre, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hébreux 6, qui vient d'être lu, quand on lit les 5 premiers versets, on se dit, mais j'ai affaire manifestement à un chrétien. Et les 3 versets suivants nous disent non. En fait, non. La suite a montré que non. Donc, comment est-ce que les systèmes théologiques s'en sortent avec ça? Et je pense que c'est ça la pierre d'achoppement. Mais pour les uns, il n'est pas concevable que Dieu ait commencé cette œuvre s'il n'a pas d'abord régénéré. Donc on met, comme je l'ai dit, la nouvelle naissance à l'appel, parce qu'après tout, un mort ne peut pas croire, un mort ne peut pas se repentir. Donc on use d'un argument logique en disant, ben, il faut bien d'abord que Dieu vivifie pour qu'ensuite on croit et on se repente. On met un argument logique à la base de notre conception théologique et on confond l'appel et la nouvelle naissance. Et je me souviens d'une fois où j'avais mentionné ça à un frère, et quand je lui dis, mais attends, mais pourtant, la parole dit bien, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ah non, je ne veux pas entrer là-dedans. Parce que dès qu'on commence à entrer là-dedans, il y a le château de cartes qui s'effondre. Parce qu'on réalise, oh mince, mais attends, si ce n'est pas à l'appel que je suis né de nouveau, et que c'est juste le moment où j'ai reçu la semence de Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour déboucher sur la vie, la personne était désarçonnée. Mais à l'inverse, l'autre manière de voir, je suis sauvé parce que j'ai pris la décision de suivre Jésus. J'ai exercé ma volonté pour le suivre. Et on fonde notre vie chrétienne sur un acte, une décision personnelle. Oui, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On ne peut pas s'élire soi-même. C'est Dieu qui élit les siens. Donc ça ne vient pas de notre choix, ça vient du choix de Dieu. Et c'est ce qui est dit dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, les deux, je pense que vous avez peut-être pour certains compris les deux grands systèmes théologiques auxquels je fais allusion, le calvinisme d'un côté et l'arminianisme de l'autre, qui s'affrontent. Chacun des deux est en fait basé sur un raisonnement humain. L'un, la vie doit nécessairement précéder la repentance, mais quand on pense comme ça, vous allez voir en fait que l'aiguillon de la repentance, il disparaît. De toute façon, je suis déjà né nouveau. Donc maintenant, tout devient positionnel, tout devient virtuel, mais on a du mal à entrer dans la repentance. Comment rechercher quelque chose que l'on croit déjà avoir? Et inversement, les autres se fondent sur leur propre décision. Donc, il revient toujours sur ce moment où j'ai choisi, j'ai voulu, je, et non pas quelque chose qui vient de l'extérieur par la rencontre avec Jésus. Et le point commun entre les deux, c'est de vouloir rationaliser, mettre en boîte quelque chose dont il est dit que l'on ne peut pas le mettre en boîte, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est à nouveau ce verset. Alors, j'allais le citer après, mais je le cite déjà. La brise souffle là où elle veut, tu en entends la voix, mais tu ne connais pas d'où elle vient, ni où elle va. Ainsi en est-il de tout être humain, enfanté par l'Esprit. Il y a une part qu'on ne contrôle pas, il y a une part qu'on ne maîtrise pas, et c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. On ne peut qu'y répondre et y obéir, et la première chose que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous confronte à sa révélation et à sa parole, c'est de nous repentir. Donc j'y reviendrai ensuite, plus concrètement, parce que sans cette œuvre de repentance, de mise à nu de notre être intérieur devant lui, nous ne pouvons pas voir les profondeurs de nos ténèbres et nous ne passons pas de la mort à la vie. Mais j'y reviens après. Et je pourrais développer comme ça d'autres passages dans Romains 7. Vous savez, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Et je suis esclave de la loi de Dieu selon mon entendement. Mais dans mes forces, je vois une autre loi. Et les débats sans fin pour savoir, mais est-ce que cette personne, elle est chrétienne? Elle n'est pas encore chrétienne? Elle est que légaliste, mais elle n'a pas connu encore la nouvelle naissance? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'elle a connu la nouvelle naissance que... En fait, chacun des deux systèmes théologiques vont vous donner une réponse. Et les théologiens se battent pour savoir, mais Romains 7, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Et moi, je dis, ben, ni l'un ni l'autre. C'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux entre l'Égypte et Canaan. C'est ce qui se passe dans le désert, cette lutte avec la parole de Dieu qu'on a reçue et qui nous amène à désespérer de nous-mêmes. Ah oui, mais c'est exactement ce qui s'appelle la repentance. La repentance, elle nous amène à désespérer de nous-mêmes. Malheureux que je suis, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Donc Dieu est déjà à l'œuvre. Mais ce n'est qu'au chapitre suivant, Romains 8, comme il est dit également, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ouf! Mais je ne peux réaliser que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort que si je suis passé par la désespérance de Romains 7 en réalisant que tous mes efforts pour faire le bien se cassent le nez et tous mes efforts de propre justice sont vains. Mais si je ne me suis pas cassé le nez, si je n'ai pas vu à quel point j'étais mort, et c'est déjà l'œuvre de Dieu, comment est-ce que je vais pouvoir recevoir son esprit de vie et expérimenter les promesses qui sont dans la parole? Je reviens un petit peu après. Une chose enfantée de la chair est chair, et une chose enfantée de l'esprit est esprit. Et là, on retrouve quelque chose qui est l'opposition fondamentale dont parle la Nouvelle Alliance entre la chair et l'esprit. Il n'y a aucune conciliation entre les deux. Or, le religieux passe son temps à essayer de concilier les deux. Ça veut dire ne pas entrer dans la mort, et par conséquent ne pas expérimenter la vie, mais tout en croyant évidemment aux promesses de Dieu et en les affirmant. Mais comme il a refusé de passer par la mort, il ne peut pas expérimenter la puissance de vie. C'est ce qu'a dit Abdel plusieurs fois ce matin. La mort et la vie sont les deux faces de la même médaille. C'est soit on a les deux, soit on n'a aucun des deux. Mais on ne peut pas les séparer. C'est exactement ce que font pourtant certains quand ils disent que le fondement de la vie chrétienne, c'est la justification par la foi. Alors j'en choque peut-être certains, parce que c'était le fondement de la réforme. Sauf que Calvin disait, je vous l'ai déjà dit, justification et sanctification sont en Jésus. Il a été fait pour nous, justification et sanctification. Et il dit, ce n'est pas la justification que nous recevons, ce n'est pas la sanctification que nous recevons, c'est Jésus que nous recevons qui a été fait pour nous, justification et sanctification. Donc par des arguments subtils, on se tourne vers des points de théologie, alors que la réalité pour un chrétien, c'est est-ce qu'il a rencontré Jésus ou pas? C'est ça. Si j'ai rencontré Jésus, il va devenir pour moi justification, parce que je me repens de mon péché. Et il va devenir pour moi sanctification, il me fait passer de la chair à l'esprit. Et c'est Jésus qui le fait. Donc la vraie question, c'est a-t-on véritablement rencontré Jésus? Ou a-t-on adhéré à un système théologique? Sous couvert de donner une fausse sécurité aux chrétiens, on ne veut pas aborder les passages difficiles que j'ai mentionnés juste avant, et on les transforme, on transforme la grâce qui coûte, celle qui me coûte la vie par la repentance, qui me fait perdre les illusions sur moi-même, qui me montre la corruption de ma chair quand je vois l'incorruptibilité et la gloire de Jésus, je vais y revenir après, au lieu de passer par ce processus de mort, qui s'appelle la grâce qui coûte, c'est comme ça que l'appelait Bonhoeffer, la grâce qui vient au prix de la repentance que Dieu suscite quand on a véritablement rencontré Jésus, on la remplace par une grâce bon marché. Et malheureusement, quel meilleur exemple que celui de Laodicée, donc qui, je pense, prophétiquement représente l'Église d'aujourd'hui, et qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et Jésus lui dit « Mais tu ne sais pas, tu ne vois pas à quel point tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Laodicée ne savait pas qu'elle était pauvre, aveugle, misérable et nu. Non pas que ce soit un problème d'être pauvre, aveugle, misérable et nu. Nous sommes pauvres, aveugles, misérables et nus. Mais Laodicée ne le savait pas. Donc elle vivait dans l'illusion. Je suis riche, je me suis enrichi. Tu ne sais pas. Toujours dans la continuité de ce que je viens de dire dans Romains 8, 12 à 16, dans cette opposition entre la chair et l'esprit, et avec le verset 16 qui est à mon sens très très important. Frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, focalisé sur Jésus, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Première définition de qui est un enfant de Dieu, c'est ce qu'on a lu dans Jean 3 tout à l'heure. Ceux qui sont nés de l'Esprit sont conduits par l'Esprit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est le point important. C'est l'Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous venez me voir en me disant « Mais est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ?» Je lui dis « Maintenant, moi, je ne peux pas te le dire. Ce n'est pas à moi de te le dire. C'est l'Esprit qui doit rendre témoignage à ton esprit si tu l'es ou pas. Moi, je... » Mais voyez, des enseignants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?« Mais non, rassure-toi, parce qu'il est écrit. » Et on va commencer à chercher des versets bibliques pour essayer de rassurer la personne, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans l'intimité de notre relation avec Jésus qui fait que l'on devient solide et inébranlable. Et ensuite, si quelqu'un vient nous attaquer de l'extérieur ou essayer de nous ébranler, j'ai le témoignage de l'Esprit en moi. Qu'est-ce que tu te racontes? C'est l'Esprit qui rend témoignage. Ce ne sont pas nos systèmes théologiques et ce ne sont pas les paroles éventuellement rassurantes que pourraient nous donner les uns les autres. Ça doit venir du profond de l'esprit en nous. Sinon, on s'accroche à des raisonnements doctrinaux et on essaie d'affirmer des choses, je le rappelle, dont on sait très bien au fond de nous qu'on ne les vit pas. Et la conséquence de ça, comme je l'ai dit, c'est qu'on coupe Jésus en morceaux. On se proclame justifié, mais on ne sait pas ce que c'est que la sanctification, la marche par l'Esprit. On coupe Jésus et on garde ce qui nous intéresse. Or, comme je l'ai dit, on reçoit Jésus en entier ou rien du tout. J'ai déjà cité ce passage, donc la brise souffle là où elle veut. Tu en entends la voix, donc je ne vais pas répéter. Simplement pour dire que on a tendance à mettre les choses à l'envers, on met la nouvelle naissance lors de l'appel, et après on considère que la repentance, c'est juste dire ben, « Seigneur, je confesse effectivement que je suis un pécheur et je prends Jésus pour sauveur. » C'est bien léger ça comme repentance, et je pense vraiment que s'il y a une chose que l'Église a perdue aujourd'hui, c'est la compréhension de ce qu'est la repentance, de ce qu'est la cure d'âme, pour les personnes qui se convertissent, de ce qu'est l'accompagnement spirituel, pour l'accompagner dans cette prise de conscience de la corruption de la chair et de la beauté, de la gloire et de la grâce de Jésus. Je pense vraiment pour ma part qu'on a oublié que le message de Jésus est toujours précédé du message de Jean-Baptiste. Donc on court-circuite de Jean-Baptiste et on va tout droit à la bonne nouvelle en oubliant que la promesse de la vie passe d'abord par l'expérience de la mort avec lui. Alors la parole nous montre toujours, et par plusieurs versets, que la repentance précède la vie. Dieu accorde la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Ça, on le retrouve plein de fois dans le livre des Actes. Regardez, la repentance, puis la réception de l'Esprit. C'est toujours la repentance, la vie. Et donc, pour vivre ainsi, quelque chose doit mourir en nous. Et c'est pour ça que Jésus glisse du thème de la nouvelle naissance au thème de la croix. De la même manière que Moïse a élevé le serpent, il faut que je sois élevé. Il nous montre que ça passe par la croix. Donc pour vivre, quelque chose doit mourir, c'est-à-dire le vieil homme, la chair, le prépuce du cœur. Il y a plein d'expressions de la Bible pour parler de cette chose-là. Et donc on contourne cette réalité-là, cette nécessité de la repentance, par des déclarations positionnelles. Mais celui qui a véritablement reçu la semence de Dieu se crée en lui, en elle, une dissonance. Et à un moment donné, cet écart entre ce qui est écrit et ce que l'on vit devient trop grand et source de troubles intérieurs. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur dit, mais t'as pas oublié quelque chose là en passant? Et c'est comme ça qu'on finit par revenir à la repentance si on ne l'a pas connue au départ. Et c'est ce que certains vont confondre avec une deuxième expérience. Je pense qu'il n'y a pas de deuxième expérience. C'est simplement la première, cette œuvre de nouvelle naissance, d'enfantement, en fait, qui n'avait pas été vécue. Donc Dieu fait grâce s'il a vraiment mis en nous l'amour de la vérité et qu'on ne vit pas ces choses parce qu'on a mal compris ou on a mal été enseigné sur la repentance en particulier. Il y a une dissonance intérieure qui se met en place, qui nous enlève notre paix. Et ça, c'est le ressort de rappel que le Seigneur utilise pour nous dire « Ah, ah, reviens vers moi, il y a quelque chose là qu'il faut que je te montre sur toi-même. » Donc c'est la grâce de Dieu. Donc paradoxalement, s'il y a cette dissension en nous, c'est la grâce de Dieu. Les religieux pharisiens sont très très contents d'eux-mêmes. Donc c'est un bon signe si on n'est pas content de nous-mêmes. Alors je vais abréger parce que je vois que l'heure passe. Alors, abrégé en prenant ce passage que Abdel a lu tout à l'heure dans Romains 6, versets 5 à 7. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa vie ou à sa résurrection. Et là, le mot qui est important, c'est le tout premier. Si. Si. On a tendance à dire, nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort. Paul dit, non, non. Si. Nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort. Devenir une même plante, c'est un processus. Ça fait penser, quand on parlait d'enfantement tout à l'heure, à ce que Paul va dire dans Galates 4, verset 19. Combien je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. Ce qui montre bien que Jésus n'est pas formé en nous comme ça au moment de l'appel. Il y a un travail d'enfantement, de gestation, pour que Jésus soit formé en nous. C'est ceci, nous devenons une même plante avec lui. C'est un processus. L'union en sa mort précède l'union en sa vie. Et ça mène au troisième et dernier point. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce rapport entre les ténèbres et la lumière. Celui qui se confie en le Fils n'est pas jugé. Celui qui ne se confie pas en lui est déjà jugé. Parce qu'il ne s'est pas confié dans le nom de l'unique, le Fils de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue vers l'âge présent, le monde présent. Mais les fils d'hommes, les fils d'Adam, ont ardemment aimé les ténèbres plutôt que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Et comme je l'ai dit, et je boucle avec ça, c'est, je pense, le problème central, le fait que nombre de chrétiens ne savent plus ce qu'est la repentance. C'est-à-dire se juger soi-même à la lumière de l'Esprit et de la parole, parce qu'un jour, à l'appel, Jésus s'est fait connaître. Donc il faut bien comprendre une chose, nous ne pouvons pas produire la repentance. Je ne peux pas dire, tiens, je vais me repentir et commencer à faire de l'introspection et m'analyser pour avoir la liste de mes péchés que je vais confesser à Dieu ou à un homme. En espérant que par là, la lumière jaillira. Ça, ce sont les religieux qui font ça. Et je peux vous assurer, pour avoir connu ça dans un milieu chrétien sectaire, vous pouvez le faire pendant des années sans jamais que votre vie ne change. Et je parle là d'une réalité que j'ai vue de mes yeux. Non, c'est l'inverse. C'est parce que Jésus s'est révélé dans sa bonté, au moment de l'appel, il met sa semence en nous. C'est parce qu'il s'est révélé dans sa bonté qu'ensuite il nous invite à entrer dans ce processus de repentance qui va nous unir à lui dans sa mort et nous unir à lui dans sa vie. On ne peut pas, à la lumière de l'Esprit de Dieu, être confronté à notre corruption si nous n'avons pas en face de nous l'image de l'incorruptibilité du Fils unique de Dieu. C'est en fait la contemplation de l'incorruptibilité et de la gloire du Fils de Dieu qui automatiquement nous amène à la repentance. Souvenez-vous de l'appel de Pierre, lorsque Jésus lui a dit « Jette ton filet à droite là, enfin à droite ou à gauche, je ne sais plus. » Et Pierre relève et il a plein de poissons. Mais immédiatement il se prosterne devant Jésus et dit « Mais retire-toi de moi, je suis un pécheur. » Dès qu'il comprend à qui il a affaire, « Retire de moi, je suis un pécheur. » C'est le réflexe naturel quand on est confronté à la gloire de Dieu. Quand on est pécheur, on se retire. Adam et Ève se sont cachés derrière les arbres quand ils ont péché. Ils ne pouvaient plus contempler la gloire du Fils de Dieu qui venait leur rendre visite tous les soirs. Et la repentance, c'est de dire, c'est ne pas de fuir, c'est ce que font tous les religieux, mais c'est de rester et dire, mais plus tu t'approches, plus je vois ma nudité, plus je vois ma corruption. Mais parce que je te vois, parce que j'ai en toi la promesse de ma justice, il a été fait pour nous justice, parce que j'ai en toi la promesse de la victoire sur la chair et sur le péché, parce qu'il a été fait pour moi sanctification, alors je me laisse faire. Je me laisse déshabiller, je me laisse mettre à nu. J'accepte de voir la corruption. Donc c'est en regard de Jésus que se fait la repentance. Et donc on peut se poser des questions, évidemment, si on ne passe pas par la repentance, quel est le Jésus qu'on a rencontré? Est-ce que c'est bien le Jésus de gloire, dont la gloire révèle notre nudité et notre corruption? Et je vais terminer donc avec ce verset, moi qui m'a toujours frappé, c'est dans Romains 1, verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ce contraste entre la corruption, la corruptibilité et l'incorruptibilité. Ça veut dire quoi que Dieu est incorruptible? C'est qu'il est de manière absolue et infinie, il est pureté, il est sainteté. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter, qu'on puisse retrancher. Il est infiniment dense. Il est infiniment toutes les vertus que nous pouvons imaginer. Elles sont chez lui à un stade absolu qu'on ne peut pas améliorer. C'est-à-dire d'une beauté, d'une lumière, d'un éclat qui fait que lorsque nous allons voir le Fils de Dieu devant nous, en entrant dans le royaume qui vient, on sera là, waouh! Comme les chérubins qui portent le trône de Dieu, et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est se couvrir les yeux face à la gloire de Dieu, en disant, mais saint, saint, saint est l'Éternel. Donc, on va avoir la jouissance de le voir, et de voir une beauté qui nous dépasse complètement. Et face à ça, il y a la corruptibilité de l'homme. Et c'est important de voir la différence entre les deux. Parce que plus je vois la corruption dans ma chair par l'Esprit de Dieu, plus je vois l'incorruptibilité du Fils de Dieu. Et plus ça crée en moi ce désir de le voir, ce désir de le connaître, ce désir de communier à sa nature. On ne peut pas voir l'un sans voir l'autre. Et là, il est dit que les fils d'Adam, ils aiment les ténèbres plus que la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres mauvaises soient révélées en tant que telles. Et un chrétien qui est appelé, qui reçoit la semence de Dieu, il accepte que ses œuvres mauvaises soient révélées à sa propre vie et devant Dieu. C'est ce thème de l'incorruptibilité par rapport à la corruption qui est une des manières de parler de la repentance. La beauté de Jésus ou la bonté de Jésus, nous dit Paul dans Romains 2, c'est ce qui nous pousse à la repentance. Voilà, donc je ne vais pas développer plus loin. Là, j'ai repris les durées d'antan, mais ça sera l'exception qui confirme la règle. Mais parce que c'était important, je pense, comme thème. Et donc, pour la conclusion, on refait marche arrière. La prise de conscience de notre corruption, la lumière de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui nous montre qui nous sommes et qui il est, c'est cela la repentance. On ne peut pas perdre notre propre justice et expérimenter la vie de l'esprit si on n'a pas perdu nos illusions sur nous-mêmes. On remonte d'un cran l'œuvre de la croix, alors l'union avec Jésus sur la croix, tout Romains 6, prend son sens. Devenir une plante avec lui en sa mort et en sa vie ne prend sens que si on a connu la repentance avant. Parce que la repentance, c'est ce qui nous unit à Jésus en sa mort. D'où va jaillir la vie, c'est la troisième étape, la nouvelle naissance. Donc vous voyez, il y a ce processus qui mène de la fécondation à la naissance, de l'Égypte en Canaan, mais entre les deux, il y a l'œuvre mystérieuse dans le ventre, l'œuvre mystérieuse de gestation, ou comme le dit le psaume, tu m'as tissé dans les entrailles de ma mère, il y a une œuvre mystérieuse qui se fait là, qui est également une œuvre mystérieuse qui se fait dans le désert, de dépouillement et de revêtement. Et comme je l'ai dit, je le répète une dernière fois, quand on essaye de maîtriser ça par nos systèmes théologiques, on passe complètement à côté de ce passage de la mort à la vie. Voilà, je pourrais en dire beaucoup plus, mais je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Voilà, j'espère que j'ai été en tout cas suffisamment clair dans ce que j'ai dit. Vraiment, c'est quelque chose qu'on pourrait beaucoup développer.
Après le message de Jean-Marie, nous allons maintenant ensemble réciter la prière de Notre Père en anglais, en espagnol, en polonais, en allemand, en arabe, en araméen et en français.
Et à chaque fois quand on fait Notre Père, on va se lever tous. Non, c'est l'espagnol. L'espagnol. On va se lever.
Mateo capítulo 6 versículo 9 a 15 dice: Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdonamos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. 13 dice: No nos exponga a la tentación, sino líbranos del maligno. 14. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. 15. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Amén.
Amén. Après Notre Père en espagnol, nous allons passer à Notre Père en polonais.
Il faut enregistrer.
Bon. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nam na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Amen. Après le polonais, nous allons passer maintenant à Notre Père en allemand. Cette fois-ci, nous avons trois. Ensemble, les trois ensemble.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen. Après l'allemand, nous allons passer maintenant notre Père en arabe.
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب ولكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد آمين
آمين.
Et après l'arabe, nous allons passer maintenant à notre Père en araméen.
Avun dvashmaya, neskad dashmach, tese malkusach, nehwe svianach, aigena dvashmaya afbara. Havlan lachmad tsunkanan yaumana, washwuklan haubein, aigena dachnan schwagne lachayavein. Volatalan le nesiona, et la passan menbisha, metul de zilachi, malkusa, wahaila, wasejburta, le alam almin, amin.
Amin. Amen. Et maintenant notre Père en anglais.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Amen.
Et nous terminons par le Notre Père en français.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.